France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un proviseur menacé de mort, contraint de quitter son poste pour raison de sécurité. Cela se passe dans un lycée parisien. À l'origine, un accrochage avec une élève voilée. Le ministère se défend ce matin. L'ex-proviseur reçu cet après-midi par le Premier ministre. Explication à suivre. À suivre encore une commune qui fait reculer le trafic de drogue. Ça se passe près de Rouen, nous y serons. Des députés qui saisissent la justice au sujet du casting d'un film. Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Jérôme.
Il s'agit du dernier film de Jacques Doyon.
Les séances de casting où des enfants ont été mis très mal à l'aise, voire bousculés. Le cinéma ne justifie pas tout et le film ne doit pas sortir, nous dit l'une des députées qui a fait un signalement à la procureure de la République.
A tout de suite, nous serons également en Ukraine. Qualification de l'équipe nationale de football hier soir pour l'Euro. Nous verrons où sera installée la flamme olympique dans Paris cet été. Et puis nous surveillons nos comptes en banque. Bonjour Manon Derdevé.
Bonjour Jérôme.
La paye du mois de mars n'est pas sûre de tomber avant mardi prochain.
Pas de certitude, oui, à cause du long week-end de Pâques, les virements vont être interrompus entre demain et mardi. La Banque de France demande aux entreprises d'anticiper.
À 13h30, comment améliorer l'image d'un territoire abîmé par les aléas climatiques, sécheresse, tempête, inondation? Il faut éviter que les touristes ne s'en détournent. Vous en avez fait l'expérience chez vous? Appelez-nous 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France. Le loup divise à nouveau les Français. Et les clivages sont surprenants, nous dira Éric Fotorino du 1 Hebdo. Juste avant 14h, c'est une chanson. Le chanteur Benjamin Sixou demande le musicien américain Moondog à Frédéric Pommier. Et puis dans une vingtaine de minutes, la sélection cinéma d'Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le ministère de l'Éducation nationale n'abandonne jamais ses agents. La mise au point ce matin, après l'annonce hier du départ en retraite anticipé du proviseur du lycée Ravel à Paris. Ce proviseur avait eu une altercation avec une élève il y a un mois, majeure, scolarisée en BTS. Il lui avait demandé d'enlever son voile. Il avait ensuite été visé par des menaces de mort proférées sur Internet. Dans un message adressé à ses anciens collègues, il explique avoir pris cette décision, je cite, par sécurité pour lui et pour son établissement. Il sera reçu cet après-midi à Matignon. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Nous allons voir avec vous comment le ministère se défend des critiques. Avant cela, allons sur place retrouver William Delesseux. Bonjour William.
Bonjour Jérôme.
Vous vous trouvez à proximité de ce lycée. Comment réagissent les élèves ce matin ?
Tous ceux que nous avons rencontrés regrettent la mise en retrait du proviseur. Les cours se terminent ici, beaucoup de journalistes à la sortie, une présence policière devant le bâtiment. Sarah et Ella nous font part de leur choc lorsqu'elles ont reçu le message hier pour annoncer le changement de chef d'établissement.
Qu'ils partent pour des menaces, ben ça c'est dommage. Parce que les gens l'ont menacé.
Ça fait longtemps, je pense qu'il est proviseur à Mousse-Ravel, tout se passait bien et puis...
Pour un petit incident.
Exactement. Ça a pris beaucoup d'ampleur.
Un emballement, une récupération de toutes parts de cette altercation du proviseur avec l'élève voilée il y a un mois. Pour Elliot, face à ce déchaînement sur les réseaux sociaux, il n'avait plus le choix.
Oui, moi je pense qu'il a bien fait de partir pour des raisons de sécurité. Les menaces de mort, ça fait peur. Et puis on ne le voyait plus trop dans les couloirs du lycée. Je pense qu'il était plutôt méfiant. Je pense que c'est une bonne décision qu'il a prise.
Depuis un mois, c'est un étrange climat qui s'est installé dans les couloirs, un clivage entre les élèves qui soutiennent le proviseur dans son application de la loi et ceux qui souscrivent à la version de la jeune fille voilée, frappée selon elle par le chef d'établissement, version que défend cette lycéenne. Elle souhaite rester anonyme.
Il a mal agi avec une élève, mais il n'a pas recevoir des menaces de mort pour ça. Moi, je suis contre. Je trouve que c'est abusé, la réaction elle est vraiment... Elle est trop forte, je ne mérite pas de recevoir des menaces de mort comme ça.
Des regrets unanimes, les élèves continuent ce midi à discuter, à débattre entre eux du départ de leur proviseur devant cet établissement.
Merci William Delesseux en direct avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Alors ce départ est très commenté depuis hier, déclaration politique notamment. C'est la conséquence des petites lâchetés, des grands renoncements pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Échec collectif, estime le patron des députés socialistes Boris Vallaud. Alors, Alors le ministère de l'Éducation nationale, Sonia Princey, a réagi ce matin.
Oui, la ministre a voulu répondre aux polémiques et rappeler tout ce qui a été fait depuis le début de cette affaire. Dès le 29 février, la police a surveillé les abords de l'établissement. Une ligne d'appel prioritaire a été mise en place pour que le proviseur soit en lien direct avec le commissaire de l'arrondissement en cas de danger. Un signalement a été effectué à la plateforme Pharos pour retirer les messages contenant des menaces. Et la ministre s'est immédiatement rendue au lycée Ravel après les faits pour apporter son soutien au chef d'établissement. Il a bénéficié de la protection fonctionnelle. Il a été humainement et financièrement accompagné dans ses démarches judiciaires, précise le communiqué. Le ministère veut ainsi prouver que le proviseur n'a pas été lâché. D'après nos informations, il n'a d'ailleurs pas démissionné. Il a une autorisation spéciale d'absence, vous savez, comme pendant le Covid pour les personnes fragiles. C'est pour quelques mois jusqu'à son départ à la retraite qui était prévu. Une décision conjointe du rectorat et du proviseur dans un but de protection pour qu'il soit moins exposé. Les choses ont été prises au sérieux, me confiait tout à l'heure un proviseur parisien. C'est la bonne décision, selon lui, pour éviter qu'un drame se produise, comme pour Samuel Paty.
Et du côté de l'enquête, deux personnes à l'origine de ces menaces ont été identifiées et interpellées. Elles sont sans lien avec l'établissement. L'une de ces personnes doit être jugée le 23 avril prochain à Paris. Merci Sonia Princey pour ces informations. Six nouvelles opérations Place Net anti-drogue déclenchées ce matin, selon le ministre de l'Intérieur. Elles se sont déroulées à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, à Marseille, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand et Dijon, selon Gérald Darmanin. Alors il y a l'action de la police, mais elle n'est pas toujours suffisante. À Sotteville-lès-Rouen, dans l'agglomération rouennaise, la mairie et les autorités ont lancé en juin dernier une vaste opération dans un quartier où les trafics prospéraient, l'espace Lodz, au programme travaux, aménagements et patrouilles de police. Et cela a payé. Reportage Coralie Moreau.
Dans le parc de 6 hectares, Régine promène sa poussette. Elle s'y sent mieux aujourd'hui. Depuis l'opération anti-drogue, elle se dit en sécurité.
Moi qui ne sortais pas très souvent de nuit, là je me permets quand même. Avant, il y avait toujours les jeunes un peu partout, sous des immeubles, c'est fini.
Des immeubles autour d'un parc et de grands parkings derrière, une situation idéale pour les dealers qui se sont installés jusque dans la cour d'école. Alexis Ragache, le maire de Sotteville.
Notre vraie problématique, c'était effectivement qu'il y avait une proximité avec la cour qui pouvait servir de cache. Et ça, c'est notamment les enseignants et la directrice qui nous informaient de ce problème particulier. C'est la première fois que ça arrivait sur la commune. Ce qu'on a fait assez rapidement et dans des délais très contraints, c'est de rehausser la barrière.
Coût des travaux, 163 000 euros. En parallèle, la vaste opération de police a permis une vingtaine d'interpellations et 80 sanctions. Depuis, le calme est revenu, grâce notamment à la police municipale, dirigée par Priscilla Lefebvre.
On passe une grosse partie de notre temps ici pour surveiller les abords des écoles, les sorties scolaires, et pour justement éviter que le trafic reprenne. Donc on met de la présence policière systématique.
La mairie a également prévu de nouveaux aménagements pour gêner les trafics et pour sécuriser les halls d'immeubles les plus sensibles. Une rénovation a été décidée pour un montant de 18 millions d'euros.
Coralie Moreau, France Bleu Normandie. Nouvelle violence en revanche hier après-midi à Nice. Quartier des Moulins, une trentaine de personnes cagoulées ont gravement blessé un jeune homme de 18 ans. Un policier a lui été très légèrement blessé. Ce film devait sortir aujourd'hui en salle, signé du réalisateur Jacques Doyon, intitulé « CE2 ». Un drame sur le harcèlement scolaire. Jacques Doyon, visé par une plainte pour viol sur mineur déposée par l'actrice Judith Godrèche, la production du film avait décidé de décaler sa sortie. Et selon nos confrères du journal Le Monde, des questions se posent également autour du casting des enfants appelés à jouer dans ce film. Amélie Perrier, certains de ces enfants, victimes de harcèlement par ailleurs, ont été mis mal à l'aise lors des auditions.
Ouais, la députée Perrine Goulet, qui a vu les images, parle même de maltraitance.
C'est-à-dire qu'on a une petite fille qui, à plusieurs reprises, exprime le fait qu'elle ne veut pas parler du harcèlement dont elle a été victime et où la personne qui fait le casting la force, la pousse, la réinterroge plusieurs fois. On voit que la petite fille se tord, elle pleure, etc. Elle ne veut pas en parler, mais l'adulte finit par la forcer à parler. Il y a une autre vidéo, pour moi, très choquante. C'est qu'à l'intérieur du casting, il demande à deux enfants de se frapper réellement. Et au bout d'un moment, on entend la voix qui dit au garçon de répondre. Et le garçon répond trop violemment. La petite fille se fait vraiment très mal. On la voit après pleurer, les mains dans les cheveux. Et on voit la directrice de casting qui dit « Non, mais c'est bien, c'est comme ça. » Enfin, c'est pas possible, en fait. On ne peut pas demander aux enfants de se frapper réellement au point que la petite fille pleure à la fin.
La députée Modem, également présidente de la délégation aux droits des enfants, demande que le film ne sorte pas.
et avec deux autres collègues, elle vient d'envoyer un signalement auprès de la procureure de la République pour l'ouverture d'une enquête. Que la justice fasse son travail, répond le producteur ce matin dans un communiqué. Lui n'admet qu'une maladresse commise par une seule personne. Pour le collectif 50-50 contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma, il ne s'agit pas de pointer du doigt un réalisateur. Marine Longuet a également vu les vidéos et pointe un problème plus profond.
Il ne faudrait pas penser que s'il y a des dysfonctionnements dans le cinéma, c'est uniquement des problèmes de personnes, qui soient abusives ou qui aient des mauvaises pratiques. Je pense que s'il y a des problèmes avec les enfants, c'est que dans la société actuelle, il y a un manque de moyens gravissime pour la protection de l'enfance.
Et la députée Perrine Goulet soutient maintenant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux enfants dans le cinéma, commission qui pourrait voir le jour début mai.
Amélie Perrier, sur la question des violences gynécologiques, là les choses semblent évoluer. Une femme sur cinq en a déjà été victime, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Désormais des femmes en parlent et des médecins expliquent qu'ils se sont remis en cause. C'est le cas du docteur Amina Yamnian. Elle publie aujourd'hui un livre intitulé « Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques » et vous l'avez lu, Victor Dolan.
Son diplôme en poche, Amina Yamnian travaille d'abord dans une maternité belge, puis à l'hôpital Necker à Paris. Elle excelle dans le soin, enchaîne les consultations, les accouchements, mais sans se poser de questions. Au détour d'une formation professionnelle, elle écoute le ressenti des patientes et prend conscience d'avoir été maltraitante pendant des années, selon ses propres mots.
Je tiens en compte les témoignages des femmes qui disent « quand on a fait ça, ben, c'était pas terrible pour nous, donc à titre individuel, je commence à bouger. » Le choix des patientes dans les soins prévôt, obtenir leur consentement pour faire un soin est indispensable. Si une patiente dit « je ne suis pas d'accord avec ce que vous me proposez de faire », qu'est-ce que je lui réponds ? La faculté de médecine ne nous explique jamais ça, mais jamais.
Elle quitte l'hôpital, décide d'ouvrir une clinique pour les femmes en banlieue parisienne pour muscler aussi son empathie, dit-elle. Amina Yamnian s'attaque aussi à la dépression du postpartum et d'un manque d'écoute pour ces femmes qui en souffrent.
Le grand public n'est absolument pas au courant de ça. Puisque ça n'existe pas, les femmes sont seules, et puisqu'elles sont seules, de préférence, elles ne sont pas soignées. Moyennant quoi ? La conséquence la plus funeste de la dépression, c'est quand même le suicide. Eh bien aujourd'hui, le suicide tue plus que les hémorragies en France, dans la première année de vie de l'enfant.
Et pour mieux prendre en compte le choix et le ressenti des malades, Amina Yamnian prône désormais l'alliance thérapeutique. Les patients sont associés aux soins dans un système de santé réellement bienveillant.
Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques, c'est aux éditions Flammarion.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Jusqu'ici, on connaissait le point de départ du parcours de la flamme olympique en France, Marseille, le 8 mai prochain. On connaît maintenant le point d'arrivée exact. Paris, d'accord, mais où à Paris ? Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Jérôme.
La flamme sera donc installée dans le jardin des Tuileries.
Oui, pour accueillir cette flamme, on avait évoqué la Tour Eiffel et la cour carrée du Louvre. C'est donc finalement dans le jardin des Tuileries, en face de la pyramide du Louvre, que brillera cette flamme pendant deux semaines. Un endroit qui va se trouver tout près de la place de la Concorde, un des sites olympiques qui accueillera quatre disciplines, le BMX, le breaking, le skateboard et le basket 3-3. On ignore encore si le dernier porteur de flamme mettra le feu à la vasque en clôture de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, ou si cette vasque sera allumée pendant la cérémonie, avant d'être transportée dans un deuxième temps dans le jardin des Tuileries. Lors des précédents Jeux à Rio et à Tokyo, la vasque avait été allumée dans un stade avant d'être déplacée en ville. Pour ces Jeux de Paris, la flamme olympique sera allumée le 16 avril à Olympie, en Grèce. C'est une tradition. Elle arrivera en France, vous l'avez dit, le 8 mai, après un voyage de 10 jours en bateau sur le Bélème, entre Athènes et Marseille.
Merci Vincent Pellegrini. Le sport qui s'est inscrit hier soir dans la grande histoire de l'Ukraine. Pour la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie, l'équipe nationale de football s'est qualifiée pour une grande compétition internationale, l'Euro, en juin prochain. Victoire des Ukrainiens 2-1 face à l'Islande. Vous entendez ici l'ambiance dans le stade en Pologne où avait lieu la rencontre à Wrocław précisément. Camille Magnard, vous êtes notre envoyé spécial, vous, à Kiev, et vous avez pu ce matin mesurer la joie des Ukrainiens.
On leur parle football et la plupart répondent « guerre ». Des Kieviens ce matin fiers de leur équipe nationale qui ira porter les couleurs jaune et bleu en Allemagne au mois de juin. Mais ça dépasse forcément le seul enjeu sportif pour Daria.
C'est la classe. On va participer à l'Eurovision. On est aussi qualifiés pour l'Euro de foot. C'est autant de manières d'attirer l'attention sur l'Ukraine, de montrer qu'on est cool, qu'on est fort, qu'on gagne et qu'on va gagner. Parce que si notre peuple remporte la victoire partout, il vaincra aussi les Russes.
Le maître mot au final, c'est bien celui-ci. Peremoha, la victoire. Il a un sens tout particulier en ce moment en Ukraine, confirme Yevhen.
Toutes les victoires que remporte l'Ukraine dans quelque domaine que ce soit, ça nous redonne de la force, de la patience, de la motivation et de l'inspiration pour l'autre victoire, la plus importante.
Beaucoup de responsabilités donc sur les épaules des sportifs ukrainiens, que ce soit à l'Euro ou aux Jeux Olympiques l'été prochain. Ici, on espère que tous les podiums aux couleurs de l'Ukraine inciteront les Européens à ne pas relâcher leurs efforts auprès du pays en guerre.
Camille Magnard à Kiev pour Inter. La France, elle aussi, disputera cette compétition. Ce sera à partir du 14 juin en Allemagne. L'Euro de football, voilà qui mettra peut-être un peu de carburant dans le moteur de l'économie allemande, la première d'Europe. Elle connaît de sérieux ratés. La croissance, cette année, devrait être très faible. Une hausse de 0,1% du PIB, selon les principaux instituts économiques du pays. Ils anticipaient, il y a encore quelques mois, une reprise de 1,3%. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin. Sébastien, après la récession de l'an dernier, la reprise n'est pas pour tout de suite.
Effectivement, Jérôme, l'économie avait terminé l'année 2023 dans le rouge avec un recul de 0,3% du PIB et elle reste engluée dans ses difficultés sans trouver véritablement les clés pour sortir de la crise. Jugez plutôt, les prix de l'énergie restent élevés depuis la fin des importations de gaz russe. La pénurie de main-d'œuvre continue à handicaper fortement les entreprises et les exportations sont toujours à l'arrêt à cause de l'affaiblissement du commerce mondial. Dans ce contexte, les économistes parlent de vents contraires qui mettent en difficulté plusieurs flux. Le rond de l'industrie allemande. L'automobile, confrontée à la rude concurrence asiatique, souffre du ralentissement des ventes de voitures électriques. Quant à la chimie, son chiffre d'affaires a chuté de 12% l'an passé. Seule bonne nouvelle dans ce tableau bien sombre, le chômage reste faible, 6,1% en février, et les salaires vont augmenter cette année plus que l'inflation, qui devrait retomber à 2,3% après son pic de 5,9% l'an passé. Mais pour l'embellie, il faudra attendre 2025 avec, enfin, une vraie reprise de la croissance qui devrait atteindre 1,4%.
Sébastien Baer, correspondant d'Inter en Allemagne. En France, le débat économique du moment tourne davantage autour de la dette que de la croissance. L'agence de notation Moody's juge à l'instant improbable que la France tienne son objectif de réduction du déficit d'ici 2027. Alors comment faire des économies? Le gouvernement est réuni à Matignon depuis ce matin pour parler travail. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage est sur la table. Gabriel Attal devrait l'annoncer ce soir, invité du 20h de TF1. Et sur ce point, les syndicats sont unanimes, opposés à toute nouvelle réforme. Encore ce matin, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
Je rappelle au Premier ministre que ce sont les acteurs sociaux qui doivent gérer l'assurance chômage. Donc il n'y a pas besoin de faire de séminaire gouvernemental pour brainstormer. Il faut organiser la discussion avec les organisations syndicales. Il y a déjà eu 4 réformes violentes qui ont été imposées ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est seulement 35% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées et c'est 40% des personnes indemnisées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit que aujourd'hui, contrairement à l'image qui est entretenue sur ces chômeurs qui abuseraient, ça n'est pas du tout le cas. Et en plus, là, le taux de chômage remonte. Donc quand le taux de chômage remonte, il faudrait au contraire augmenter les protections pour les personnes privées d'emploi.
Sophie Binet, ce matin sur France Bleu Roussillon. La fin d'une époque chez Casino. Aujourd'hui, l'homme qui a dirigé le groupe pendant 20 ans, Jean-Charles Naouri, 75 ans, passera la main ce soir. Ce sont désormais les repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui vont contrôler le groupe de Saint-Étienne ou ce qu'il en reste, puisque les effectifs français vont passer de 50 000 à 28 000. Casino, comme toutes les entreprises, qui doit faire face à une particularité en cette fin du mois de mars, après, avec le vendredi saint et le lundi de Pâques, les virements bancaires vont être suspendus pendant 4 jours, dès demain soir. Ce qui pourrait donc différer le versement des salaires de ce mois, Manon Derdevé. On vous retrouve, c'est le calendrier qui complique les choses cette année.
Oui, la spécificité cette année, c'est que le week-end de Pâques tombe en fin de mois, exactement quand les salaires doivent être habituellement reçus. Sauf que, comme l'explique la Banque de France, le système Target 2, par lequel transitent les flux d'argent entre les banques de la zone euro, sera fermé, comme c'est le cas les week-ends, mais aussi le vendredi saint et le lundi de Pâques, entre autres. Ainsi, cette année, Target 2 ne va pas fonctionner pendant plus de 100 heures à partir de demain 18h et jusqu'à mardi 2h30 du matin. La Fédération bancaire française précise que ce calendrier a été communiqué bien à l'avance et que les entreprises ont donc théoriquement ont eu le temps d'anticiper et de s'organiser pour verser les salaires avant demain soir. Notez enfin que les services de versement instantané proposés par les banques restent quant à eux opérationnels durant cette période de fermeture des systèmes de règlement.
Donc surveillez vos comptes en banque. Merci Manon Derdevet. Voilà un sujet pour le congrès annuel de la FNSEA qui a débuté ce matin à Dunkerque. Le glyphosate, le syndicat agricole, s'était félicité, on s'en souvient, en novembre dernier, du renouvellement de son autorisation dans l'Union européenne. Eh bien, élément nouveau aujourd'hui, on apprend par le quotidien Le Monde qu'un rapport sur la toxicité de ce pesticide, rapport datant de 2016, est resté dans les tiroirs. Il a fallu une procédure juridique pour que son auteur, l'Agence de sécurité sanitaire, le rende public. L'ANSES affirme qu'il n'y a aucune révélation dans ce rapport. L'ONG Génération Future, elle dit au contraire crucial pour évaluer la toxicité du glyphosate. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Ce rapport caché relance le débat.
Non publié parce qu'inachevé et par certains aspects redondants, voilà ce que dit l'ANSES qui pourtant se décide par souci de transparence à le rendre public 8 ans plus tard. Coïncidence, c'est à la veille d'une décision de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, elle-même saisie par le journal Le Monde. En premier lieu, l'agence dans ce rapport rappelle avoir conclu en février 2016 que chez l'animal et chez l'homme, le niveau de preuve que le glyphosate était cancérogène était limité. Un an plus tard, l'Europe disait la même chose, mais dans un deuxième temps, l'ANSES a commencé à évaluer la toxicité d'un coformulant, un additif si vous voulez, à l'herbicide, nommé POE taloamine. Cela a conduit à interdire à la vente 132 produits contenant cet additif en août 2016, en France comme en Europe. Pourtant, ce qu'admet l'ANSES, c'est que les 4 experts n'étaient pas tous du même avis sur la qualité de certaines études prises en compte. Pour trancher, ils recommandaient, tous unanimes cette fois, de réaliser des tests supplémentaires, tests spécifiques sur les rongeurs qui permettent de voir si l'ADN est cassé. Recommandation non suivie d'effet puisque le rapport est resté dans un tiroir.
Et on en est donc resté là.
Oui, et selon Génération Future, c'est dommageable à l'expertise car à l'échelle européenne, ce supplément de tests n'était pas exigé. Cela a permis de mettre sur le marché de nouvelles formules de l'herbicide en 2017. Ne pas avoir su que l'ANSES se montrait plus exigeante que la réglementation européenne est dommageable. Elle demande que soit revue de toute urgence la réautorisation récente du glyphosate pour 10 ans.
Sophie Becherel, les assureurs français, eux, ont fait leur compte. Les catastrophes climatiques leur ont coûté l'an dernier 6,5 milliards d'euros, l'une des 3 pires années pour eux. Et ils estiment, Philippe Lefebvre, que le problème a désormais changé d'échelle.
Pour les compagnies d'assurance, le calcul est simple. L'année dernière, il y a eu 15 épisodes de vent soufflant à plus de 150 km/h, 14 inondations, notamment dans les Hauts-de-France, avec 15 communes faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, et enfin 2 tempêtes touchant plus de 550 000 personnes. Résultat, 2023 restera effectivement une année noire pour les assureurs, très loin tout de même de 1999 où le passage de 2 tempêtes avait coûté l'équivalent de 13,8 milliards d'euros. Et à propos du coût de ces catastrophes naturelles, il faut tout de même préciser que l'État prend à sa charge la moitié des coûts, réduisant d'autant la facture finale pour les assureurs. Reste que cette accélération de ce que les professionnels du secteur appellent des sinistres climatiques va avoir une conséquence directe sur nos contrats d'assurance, puisqu'à la fin de l'année dernière, le ministère des Finances a accordé aux compagnies la possibilité d'augmenter de 12 à 20% la surprime catastrophe naturelle, et ce, pour tous les assurés.
Philippe Lefebvre.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
J'ai tout joli, mes fesses.
Et nous voilà dans la salle de cinéma, c'est magique, avec vous Alexis Demeyer pour les sorties de la semaine. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
On commence par Le jeu de la reine, c'est un film en costume qui vous a beaucoup plu.
Ah ouais, nous sommes dans l'Angleterre du XVIe siècle, enfermé dans le château du diabolique Henri VIII. Le réalisateur brésilien Karim Aynouz revisite le conte de Barbe Bleue à la sauce Tudor.
My conscience is clear. I believe that I was chosen by God to change the king's mind.
Après s'être débarrassé de manière différente de ses 5 premières épouses, Henri VIII, interprété par un Jude Law enlaidi à l'extrême, est déstabilisé par sa 6e femme, Catherine Parr, qui se révèle aussi insoumise que fine stratège. Ce récit d'émancipation est tourné comme un thriller claustrophobe, avec un grand sens du cadre qui privilégie le clair-obscur.
Un thriller écolo également à l'affiche, ça s'appelle La Promesse Verte.
Oui, deuxième long-métrage d'Edouard Bergeon, 5 ans après le succès d'Au nom de la Terre, sur la crise du monde agricole. Cette fois-ci, le jeune réalisateur s'intéresse à la déforestation en Indonésie liée à la production à échelle industrielle d'huile de palme.
On en est partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas.
La voix de Philippe Torreton qui donne dans ce film la réplique à Alexandra Lamy et Félix Moati. Pendant 2 heures, nous suivons les mésaventures de Martin, un chercheur qui découvre les ravages de la déforestation sur l'île de Bornéo et qui va être injustement condamné à mort pour trafic de drogue. Son combat écologiste se double alors du combat de sa mère pour tenter de le faire libérer. Même si certains ressorts dramatiques sont un peu téléphonés, cette promesse verte est d'une grande efficacité.
Direction l'Argentine maintenant pour un polar en pleine pampa.
Necesito que cuide ese bolso por 3 años y medio. Tiene 650,000 dólares. Hoy saqué el banco.
Los Delincuentes, les délinquants, c'est le titre de ce film fleuve 3h10 qui évoque la crise financière en Argentine avec autant de fantaisie que de poésie. Le cinéaste Rodrigo Moreno débute son histoire à Buenos Aires où 2 employés de banque vont discrètement partir avec la caisse avant de prendre la clé des champs puisqu'une grande partie du film est tournée dans la magnifique région rurale de Córdoba. À la fois film de hold-up, film carcéral, mélodrame et réflexion sur l'art, Los Delincuentes est une magnifique proposition de cinéma qui parvient vaillamment à tenir la longueur.
À l'affiche également cette semaine, Alexis, le retour du panda.
Oui, Kung Fu Panda 4, nouvel épisode des aventures animées de Po, le guerrier dragon plein de poils qui continue à faire les beaux jours du studio DreamWorks.
Paraît que la sorcière est terrible dans ce Panda 4, me dit-on.
Pas de vague avec François Civil dans le rôle d'un professeur accusé de harcèlement par une collégienne et Apollonia Apollonia, un documentaire très féminin qui suit pendant 13 ans la peintre Apollonia Sokol. Enfin, Jérôme, un salut amical à Françoise Bonnet qui quitte France Inter cette semaine après 35 ans de maison. Cette grande cinéphile était responsable des partenariats cinéma, les fameux Film Inter.
C'est grâce à elle que vous voyez le logo.
Exactement.
France Inter, juste avant
merci
d'aller
Françoise.
Voir vos films. Et merci à vous, Alexis Demeyer. Et puis sachez que l'acteur Timothée Chalamet, qui triomphe actuellement dans Dune 2, lui va interpréter la légende américaine Bob Dylan. Le biopic est en cours de tournage à New York. Vous avez peut-être croisé, admiré ses œuvres sur une place ou près d'un monument historique. En France, le sculpteur américain Richard Serra, figure majeure de l'art contemporain, est mort hier à l'âge de 85 ans. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour à tous.
Célèbre pour ses grandes plaques d'acier rouillé qu'il avait dressées un peu partout dans le monde.
Alors Richard Serra, c'est un regard d'acier, un géant de la sculpture contemporaine qui a osé la monumentalité. Sa passion pour le métal, eh bien il la doit en partie à son père qui travaillait sur des chantiers navals et sa passion pour la sculpture, eh bien elle a été déclenchée par sa découverte de Brancusi à Paris. Mais Richard Serra ne sculpte pas que l'acier. Il sculpte le temps, car cette rouille sur l'acier apparaît au contact de l'air. Et il sculpte l'espace, car son œuvre, c'est aussi l'environnement avec lequel elle dialogue. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que par exemple, ces feuilles d'acier pèsent des tonnes, parfois 25 tonnes chacune, mais leur équilibre semble fragile, comme nous, qui sommes en plein vertige. Parmi les œuvres les plus impressionnantes que j'ai vues de Serra, ce sont ces immenses tours dressées dans le désert du Qatar, comme les vestiges d'une civilisation oubliée, sous le titre de Orient-Occident.
Et il a un lien avec la France. Richard Serra a exposé chez nous de nombreuses sculptures.
Oui, en 2008 au Grand Palais pour Monumenta, au Jardin des Tuileries. Et puis aujourd'hui, vous pouvez voir encore ces sculptures qui se dressent par exemple près du Parvis de la Défense, au monastère de Bourg-en-Bresse, à Chagny, ou encore à Château-Lacoste, près d'Aix-en-Provence. Richard Serra disait en tout cas « Quand on voit mes pièces, on ne voit pas un objet, on retient juste une expérience, un passage ».
Merci Isabelle Pasquier d'avoir salué la mémoire du sculpteur Richard Serra. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, on parle de ces départements qui vivent des catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, tempêtes, entre autres, et qui doivent ensuite restaurer leur image. Il y a l'enjeu du tourisme notamment. J'attends vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, un département qui respire. Notre feuilleton à La Réunion, où le surf est de retour après la crise requin. 13h50, c'est la France et c'est une chance. Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, c'est Rome.
Avec vous, Éric, on parle du loup.
Et oui, il divise, mais parce qu'il y en a qui veulent le protéger et d'autres qui veulent plutôt le tuer.
Et des fractures parfois surprenantes. Et puis, avec vous Frédéric, un chanteur qui est aussi acteur.
Il s'agit de Benjamin Sixou, que vous pouvez voir actuellement dans le spectacle musical Les Souliers Rouges, et qui nous parlera de l'artiste américain Moondog. Je crois que vous ne connaissez pas, Jérôme.
Pas du tout, ce sera une découverte.
Vous allez découvrir, c'est génial.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Les Landes déclarent officiellement le printemps ouvert. À vos marques. Prêts ? Respirez. Envie de mettre KO l'hiver ? Retrouver la pêche et être bien dans vos baskets ? Le printemps vous attend dans les Landes et sur tourismelandes.com. Les Landes, sponsor officiel du printemps 2024.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
On a vu de la neige ces dernières heures.
Exactement.
Dans beaucoup de départements du Massif central, mais nous sommes encore au mois de mars. Pour les prochaines heures, ce sont les perturbations qui se succèdent.
Oui, on a celle d'hier qui s'attarde sur le flanc est avec de la pluie. Elle a donné de la neige, vous l'avez dit, à basse altitude. La neige remonte progressivement autour de 1000 mètres. Prudence sur le sud des Alpes, le risque d'avalanche est fort. On a une autre perturbation pluvieuse qui circule en ce moment de l'Aquitaine à la Normandie et qui va s'étendre cet après-midi du Massif central vers le nord de la Seine. Entre les deux, quelques éclaircies plutôt appréciables, du soleil près de la Méditerranée et puis de l'Aquitaine au nord-ouest, on a des éclaircies, des averses au programme avec du vent. Ce sera d'ailleurs plus agité sur la façade ouest ce soir avec plus d'averses, de l'orage et de fortes rafales de vent. Des températures comprises entre 9 et 14 degrés cet après-midi jusqu'à 14 à 17 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Et puis demain, un temps agité avec des averses au nord, de l'orage, du grésil, beaucoup de vent jusqu'à 100 à 130 km à l'heure attendu sur le littoral. Deux fortes vagues sur le Var. D'ailleurs, le département est en vigilance orange vague submersion entre 6h et 12h demain. Et puis des pluies soutenues sur la Corse pour le matin.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est en quelque sorte la double peine des territoires touchés par des catastrophes naturelles. Citons par exemple le Pas-de-Calais et les inondations, les Pyrénées-Orientales et la sécheresse, les Alpes-Maritimes et les tempêtes Aline et Alex, ou encore la Vendée et la tempête Xynthia. Il y en a bien d'autres. Des départements donc qui doivent en plus faire face ensuite à un problème de réputation, victime de l'image renvoyée auprès des touristes, notamment lors de ces sinistres. Pas très flatteuse, pas terrible pour l'attractivité. Et puisque ces épisodes sont de plus en plus nombreux, il est sans doute temps de réfléchir aux préjudices de réputation que subissent ces régions, leurs habitants, leurs entreprises et la manière d'y remédier. Nous en parlons avec nos invités. Diana Hounslow, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Pas-de-Calais puisque vous êtes la directrice de Pas-de-Calais Tourisme. C'est l'agence chargée de promouvoir ce département. Avec nous en ligne également Charles Claudeau, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de l'association Remontant la Roya dans les Alpes-Maritimes, vallée qui a été deux fois touchée par des tempêtes ces dernières années. 2020, tempête Alex, et puis dans une moindre mesure, à l'automne dernier, avec la tempête Aline. On va en parler ensemble. Et si vous aussi, vous vivez chez vous dans des régions qui ont connu ces épisodes et que vous constatez un changement ou des difficultés d'image, vous nous appelez 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Nous serons rejoints dans quelques minutes par le président délégué de l'Office de tourisme de Nice, également, qui sera avec nous. D'abord, parle à vous dans le Pas-de-Calais, Diana Hounslow. C'est un peu vous qui nous avez donné l'idée de ce sujet, car le conseil départemental du Pas-de-Calais vient de voter un nouveau plan de développement touristique pour, je cite, « redorer l'image du département ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, tout à fait. En fait, d'abord, c'est une délibération qui a eu lieu lundi dernier, qui n'a pas été dictée par l'actualité, mais est issue de travaux et concertations entre le département et Pas-de-Calais Tourisme pour le mandat présent. Il s'agit donc de confronter l'attractivité touristique du Pas-de-Calais tout en respectant notre environnement et la qualité de vie localement pour nos habitants. C'est un tourisme pour tous, dans son temps, responsable et inscrit dans son territoire par la qualité des aménagements, les économies d'énergie et l'équilibre visiteurs-habitants. Donc le rôle de Pas-de-Calais Tourisme, aujourd'hui, plus que jamais, est bien de redorer l'image du département. Les les habitants ont trinqué, on peut le dire.
Ah oui, on peut dire ça, oui. On a vu les images d'Diana Hounslow, on est venu en reportage évidemment, les images de canaux qui débordent, les champs noyés. Est-ce que vous avez craint à un moment que ça dissuade les visiteurs ?
Oui, bien sûr. Et on peut dire que effectivement, en ce moment, on sent que les réservations arrivent tout doucement. Donc c'est le moment pour nous, effectivement, de communiquer.
Est-ce que vous vous êtes dit peut-être même à un moment, oh là là, encore un reportage sur le Pas-de-Calais, encore une visite de ministre qui vient parler des inondations, évidemment c'est indispensable, mais est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous avez craint pour les conséquences ces dernières semaines ?
Oui, tout à fait. En fait, quand on a l'impression que c'est toujours pour nous. Cette fois, c'était le Parisien, il me semble, qui avait
le
dit
journal,
que,
ouais.
Ouais, que c'était la malédiction du Pas-de-Calais. C'est pas flatteur, c'est pas sympa. Et on n'est pas du tout comme ça. En fait, on est une communauté de gens qui sont très solidaires. Moi, je dis tout le temps, c'est les gens les plus sympas de toute la Terre. L'aide nous est arrivée de tous les côtés, le conseil départemental en premier, bien évidemment. Et du coup, aujourd'hui, les professionnels du tourisme sont en train de se mettre en route pour accueillir les visiteurs qui, nous le savons, viendront nombreux, puisque 63% de toute façon de notre clientèle et de la région Hauts-de-France.
Donc avec des enjeux économiques évidemment importants derrière. Charles Clodeau, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez eu un peu le même sentiment et que s'est-il passé chez vous dans les Alpes-Maritimes après le passage notamment de la tempête Alex ? La Roya, c'est une vallée qui normalement peut attirer des touristes. Il y a le très beau village de Tende notamment.
Oui, écoutez, faire revenir les touristes, en fait, il a fallu d'abord penser au point de vue pratique. Il fallait que matériellement ils puissent venir. Puisque la tempête Alex a été d'une telle ampleur que pendant un moment, c'était très difficile d'accueillir des visiteurs.
C'était d'abord un problème d'infrastructure.
Voilà, les routes étaient coupées, il n'y avait plus de réseau d'eau ni d'assainissement, plus d'électricité, de téléphone, d'Internet. Et donc, après 3 ans, le gros du travail a été fait par l'État et les collectivités territoriales pour rétablir les infrastructures, mais c'est pas encore complètement terminé, quoi. Il y a encore des travaux en ce moment et en particulier, ce qui est une vraie inquiétude pour toute la vallée, c'est que la liaison vers l'Italie par le nord, vers le Piémont, n'est toujours pas rétablie et que ça prendra encore du temps parce qu'il s'agit de reconstruire un tunnel et ça, c'est très désavantageux pour la circulation, pour le tourisme.
Mais est-ce que vous avez senti à l'époque que les images qui avaient été relayées avaient porté préjudice à l'attractivité, au désir des gens de venir chez vous ?
Oh, écoutez, ça, c'est possible. Donc, il y a vraiment, c'est sûr qu'une catastrophe naturelle, ça fait pas bon ménage avec l'image d'un territoire. Après, je pense que il y a quand même dans la vallée des pôles attractifs forts pour le tourisme, qui font que même par solidarité, les visiteurs sont revenus assez rapidement dès qu'ils ont pu le faire.
Par solidarité.
Oui, ça c'est très important. En fait, pendant la tempête, il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est exprimée vis-à-vis de la vallée avec des tas d'associations solidaires qui sont venues pour prêter main forte à la reconstruction. Et donc, je pense que l'image n'est pas trop entamée, l'image du territoire, parce que voilà, donc il y a des éléments attractifs dans la vallée de la Roya, il y a la vallée des Merveilles, un site archéologique, le parc du Mercantour. Donc les gens ne demandaient qu'à revenir, ça c'est clair.
Je voudrais qu'on donne la parole à Rudy Salle. Bonjour Monsieur Salle.
Bonjour.
Vous représentez l'Office du Tourisme, pas très loin de la vallée de la Roya d'ailleurs, de Nice-Côte d'Azur. Je précise que vous êtes à Toulouse aujourd'hui puisque c'est le salon Rendez-vous en France qui est destiné aux professionnels du tourisme. Est-ce que vous avez communiqué ou réfléchi à une communication après les intempéries qu'a pu connaître le département des Alpes-Maritimes ces dernières années ? Est-ce que vous avez senti ce préjudice d'image ?
Alors bien sûr, on a subi des catastrophes terribles. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un phénomène qui a tendance à se banaliser dans le monde. Auparavant, on voyait des catastrophes de ce type aux Antilles ou en Floride. Aujourd'hui, on en voit partout. Donc malheureusement, il y a cette banalisation et en même temps, tout le monde sait bien que personne ne peut y échapper et qu'il faut vivre avec. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, après ces catastrophes, toutes les collectivités se sont mobilisées pour réparer et pour relancer l'image. Mais l'image est surtout dans les mains de l'Office du tourisme. Il se trouve que nous avons créé depuis quelques années un Office du tourisme métropolitain, donc Nice-Côte d'Azur, qui englobe à la fois Nice et le littoral de la métropole, mais également la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie. Et si autrefois, chaque petit village disposait de son office du tourisme avec des petits moyens et n'avait pas la possibilité de faire la promotion du territoire, l'Office métropolitain Nice-Côte d'Azur, lui, dispose de moyens importants. Mmh. Et bien entendu, dans notre promotion, aussi bien sur le plan régional, national qu'international, nous englobons dans notre communication les vallées, qui sont une chance extraordinaire, parce que en quelques minutes, vous passez du littoral de la Méditerranée, dans des montagnes et dans des vallées. Il faut savoir que la vallée de la Vésubie, on l'appelle la petite Suisse, et ça n'est pas pour rien, parce que c'est effectivement quelque chose de très particulier.
D'un mot, Rudy Sall, le salon, pardonnez-moi, auquel vous participez aujourd'hui, rassemble également des professionnels de l'étranger. Est-ce que ces images, elles ont un impact sur la clientèle étrangère aussi ?
Aujourd'hui, on peut dire que non. Sur le moment, évidemment. Mais vous savez, tout le monde sait bien que après une catastrophe de cette nature, il y a un moment de résilience et que tout le monde se met en ordre de bataille pour pouvoir régler les problèmes au plus vite. Mmh. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos visiteurs ne veulent pas monter dans nos vallées. Bien au contraire, on voit que la fréquentation a retrouvé son rythme de croisière et nous nous en félicitons. Mais je vous le dis, avec l'Office du tourisme métropolitain, nous faisons une grosse campagne justement pour montrer cette complémentarité entre la mer et la montagne et ces paysages tout à fait exceptionnels.
On a dit un mot de la problématique des infrastructures. Évidemment, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est la première difficulté. Il y a les vies humaines, il y a les infrastructures. De ce point de vue-là, Diana Umslo, dans le Pas-de-Calais, est-ce que vous avez toujours des difficultés d'accueil ? Est-ce qu'il y a des établissements qui ont été touchés, hôteliers ou centres de vacances ? Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là ?
Alors en fait, de façon générale, oui, tout est ouvert. Ce qui n'est pas ouvert, c'est parfois les itinéraires de randonnée qu'on a dû fermer pour des raisons de d'éboulement.
Ouais.
Mais sinon, oui, tout va bien. Les restaurants se réouvrent. On en a un, la Grenouillère d'Alexandre Gauthier, qui est un 2 étoiles Michelin, qui lui est encore fermé pour travaux.
Mais ça aussi, il faut le faire savoir.
Oui, oui. Mais il a plusieurs autres restaurants signés par lui au cœur des remparts de Montreuil-sur-Mer. On a les bateliers du Marais au de Marois qui, ça y est, ils ont pu nettoyer leurs embarcations et ils vous attendent nombreux, on l'espère. Mmh. Et en même temps, parce qu'il y a des belles histoires aussi, Camille Delcroix, le top chef qui est au restaurant le Bakov à Saint-Omer, qui était durement touché, a reçu sa première étoile Michelin. Il est ouvert et pareil, il vous attend.
Donc ça, sont
en termes de manifestation, on a le festival des Cerfs-volants à Berck, qui aura bien lieu en avril, du 20 au 28.
Ce sont des signes positifs pour vous en ce moment.
Misérables, ouais. Les Misérables en juillet et août également.
On ne peut pas faire tout le planning, Diana Umslo, mais on a bien compris que vous essayez de redresser la situation. Je voudrais qu'on donne la parole à Gilbert. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Vous nous appelez des Alpes-Maritimes. On parlait tant des difficultés de liaison d'infrastructures. C'est toujours le cas, c'est ce que vous nous dites chez vous.
Eh bien, je vous appelle en fait de Tende.
Ouais.
Et le problème qu'on a, c'est que le tunnel qui permet la liaison entre la France et l'Italie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tunnel du col de Tende, est fermé, complètement fermé depuis la tempête d'Alex. Et chaque année, la réouverture est repoussée d'année en année. Actuellement, donc, je crois que la prochaine échéance, c'est 2026, d'après ce qu'on m'a dit, pour une hypothétique réouverture. Or, ça fout en l'air absolument toute l'attractivité touristique de Tende, puisque on avait un gros lot de touristes européens qui passaient par,
par là, et là c'est plus compliqué.
Et ben maintenant ils peuvent même pas passer, c'est-à-dire que récemment, en particulier quand on veut aller de Tende à Limoges,
il nous reste très peu de temps, Gilbert.
Voilà, disons que mon intervention c'est pour dire la fermeture du tunnel de Tende, c'est une catastrophe pour Tende et aussi pour la Roya.
Merci à vous Gilbert de votre appel, réaction rapide, Charles Clodo, ça prend du temps, c'est ça qu'on comprend.
Oui, ça prend du temps la reconstruction. Mais en fait, ce qui se passe dans la Roya est un peu particulier, parce qu'il y a quand même une prise de conscience de beaucoup d'acteurs touristiques et économiques de l'impact du changement climatique. On a vraiment été aux premières loges, la tempête Alex, ayant occasionné des dégâts qui étaient jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale, en gros. Et cette prise de conscience a poussé pas mal d'acteurs dans le tourisme en particulier à se tourner vers de nouvelles formes de tourisme, qu'on peut qualifier de tourisme vert, écotourisme, slow tourisme.
Donc prise de conscience. Je suis obligé de vous arrêter là, Charles Clodo. Merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti pour ces discussions est achevé. Merci à vous d'avoir participé à ce débat dans le 13-14. Merci à tous ceux également qui nous ont appelés aujourd'hui. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, nous sommes désormais sur l'île de la Réunion. Face aux nombreuses attaques de requins, certaines mortelles, la pratique du surf a longtemps été interdite dans les années 2010, en dehors des zones sécurisées. Les contraintes s'assouplissent aujourd'hui. Une première compétition nationale s'est déroulée la semaine dernière, mais certains veulent aller plus loin, autoriser par exemple la pêche aux requins. C'est le cas de Jean-François Nativelle, il est conseiller départemental, un homme en colère. Rencontre avec William Delesseux.
Quelle région littorale en France pourrait accepter plus de 10 années d'interdiction provisoire? Ils n'assument même pas de dire c'est définitif, on ne rentre plus dans l'eau à l'île de la Réunion, parce que c'est pas légal. Nous aussi le droit, profite la mer. Mais vous connaissez comme ça va à Biarritz, ça va à Lacanau, partout, Marseille, tout le monde y profite dans la mer, n'a point de problème. Vous comprenez
Non, j'ai pas compris.
Ah, vous avez pas compris. En gros, j'expliquais qu'on demande juste à profiter du littoral comme toutes ces plages-là où toute l'économie tourne autour de l'accès à la mer, de la baignade, des activités nautiques.
Jean-François Nativelle, pêcheur ici à l'île de la Réunion. En politique, j'ai un mandat de conseiller départemental et sinon, voilà, je suis enseignant.
Il ne s'agit pas de pêcher des requins, il s'agit de mettre une pression territoriale, de mettre une menace. À La Réunion, regardez les chiffres, monsieur, on pêche même pas une poignée de requins désormais chaque année. C'est un chiffre dérisoire. On vous dit que sur la planète, on tue 100 millions de requins chaque année, notamment sur les côtes métropolitaines, où le requin est consommé, veau de mer, émissol, chien de mer, peau bleue, etc. À peu près 3 à 4 millions, ça dérange personne.
Bien, on remet une pression sur les requins, première mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Ensuite, on continue tout ce qui est mesures de prévention habituelles, c'est-à-dire information, éducation, surveillance, etc. Après, s'il y a des moyens, on continue de mettre des moyens tels que Vigirequin, Water Patrol, pour un public qui a besoin d'une sécurisation, c'est-à-dire un public scolaire, un public familial, des touristes. Si vous êtes touriste, vous êtes en droit de pouvoir pratiquer dans des conditions sécurisées, etc. Et après, il y a le risque et péril comme partout dans le monde. Vous savez, en Australie, je crois qu'ils ont eu 118 attaques cette année. Vous pensez que l'Australie va aller mettre une interdiction ou enlever le risque et péril? Même en Nouvelle-Calédonie, ils sont pas repassés au risque et péril. Ça n'engage pas plus que ça la responsabilité de l'État. Vous savez, l'île de la Réunion a 300 000 km de ZEE, de zone exclusive d'océan. Et il suffirait juste qu'on ait 3 à 10 km où on met une pression sur ces prédateurs pour qu'ils comprennent que c'est une zone qui présente une menace pour eux, ou que là, ce n'est pas des proies, mais ce sont des prédateurs aussi, comme l'homme a toujours été, pour qu'ils se maintiennent à distance. Et je vous le répète, il ne s'agit pas d'aller dans la mer comme on nous caricature pour vider tous les requins, etc., avec un sabre entre les dents. Il s'agit juste de protéger les zones les plus fréquentées pour qu'on puisse avoir un risque acceptable et connaître le développement économique, social, humain que l'on mérite ici à l'île de la Réunion.
Est-ce que la Réunion peut redevenir cet Eldorado du surf aujourd'hui ?
Écoutez, ça a toujours été mon souhait le plus cher parce que le surf m'a tout donné. Moi, j'étais un pauvre gamin, quand j'étais jeune. Et grâce au surf, j'ai pu voyager, j'ai pu découvrir le monde. Ça m'a donné l'ambition de passer mon concours, de finir enseignant. Il y a énormément de vertus dans le surf. On peut faire du surf handicap, du surf insertion. C'est le sport des dieux, tout simplement. J'aimerais tant que l'île de la Réunion puisse s'ouvrir sur la mer parce que vous savez, il y a tellement d'enjeux derrière cette crise requin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si depuis Paris, c'est plus simple de prendre des directeurs d'aquarium ou des scientifiques en bocal pour vous expliquer l'océan ici à l'île de la Réunion, et je vous remercie d'avoir fait l'effort quand même de venir. Il s'agit juste de remettre une pression humaine, que l'homme ne soit plus considéré comme une simple proie mais comme un prédateur dans ces espaces balnéaires où on s'est toujours baigné avec nos enfants. On a un risque acceptable. On n'avait pas besoin de cette crise requin. La Réunion a suffisamment de problèmes comme ça. Laissez-nous, par pitié, respirer.
Notre feuilleton sur l'île de la Réunion cette semaine. Nouvel épisode demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49, le mercredi. Cette France qui change sans qu'on le voit, avec vous Eric Fotorino du 1 Hebdo. On parle du loup aujourd'hui. La Commission européenne veut réviser son statut pour autoriser davantage de quotas de chasse. La France soutient cette position et c'est un sujet, Eric, qui ravive de vieilles discordes.
Et oui Jérôme, quand on crie au loup, on est rarement dans la nuance. C'est un conflit ancien que vient de ranimer le nouveau plan loup, publié le mois dernier par le gouvernement. Vous vous souvenez peut-être de la réplique du garde-chasse Schumacher dans le célèbre film de Jean Renoir, la règle du jeu. Le problème dans la vie, disait-il, c'est que tout le monde a ses raisons. C'est ce qui se passe en France quand le nom du loup est prononcé. Pour ses défenseurs, la question ne se pose pas. Le loup doit être protégé, éliminé seulement par nécessité, par des personnes habilitées qu'on appelle les louvetiers, à ne pas confondre avec les louveteaux. Vous m'avez l'air, Jérôme, brusé comme un ancien louveteau, d'ailleurs.
Non, pas vraiment.
Les lieutenants et capitaines de louveterie appartiennent à un ordre plus que millénaire fondé par Charlemagne. Il est composé de fonctionnaires bénévoles, des chasseurs chargés de réguler le gros gibier et dont la première mission, je cite, était de détruire les loups à force de chiens. Le dernier loup abattu en France remontant à 1938, il s'était maintenu pour chasser le gros gibier avant la réapparition du fameux Canis lupus au début des années 90.
Alors, face aux défenseurs du loup, les éleveurs, en détresse, leurs bêtes sont de plus en plus attaquées.
Oui, c'est qu'en effet, la France compte désormais plus de 1100 loups, responsables de plus de 12 000 attaques d'ovins et de caprins, comprenez de moutons, chèvres et brebis. Un crève-cœur pour les éleveurs qui voient leurs troupeaux régulièrement décimés dans bien des endroits du sud-est, comme le parc du Mercantour. C'est une des raisons pour laquelle le nouveau plan loup indemnise plus largement les éleveurs, avec des tarifs en augmentation qui vont de 77 euros pour les animaux de réforme jusqu'à près de 1000 euros pour une brebis fromagère en bio. Si chaque année, jusqu'à 209 loups sont tués, soit un plafond de 19% de la population totale, les tenants du pastoralisme militent en effet pour gonfler ce quota.
Et donc ce nouveau plan loup du gouvernement met en colère les défenseurs du prédateur.
Et oui Jérôme, pour plusieurs raisons. D'abord, ce plan qui court de 2024 à 2029 ouvre une réflexion sur le déclassement du loup dans l'échelle des protections. Dès lors que les meutes ont atteint ce qu'on appelle un seuil de viabilité, le loup pourrait passer d'espèce très protégée au statut d'espèce protégée. Conséquence, les louvetiers ne seraient plus les seuls habilités à l'abattre, mais aussi les simples chasseurs. Ceci est encore une hypothèse, mais le plan loup prévoit, en revanche, de faciliter les tirs de défense aux éleveurs et aux chasseurs. D'un seul tireur autorisé, on passerait à 3 tireurs, et ces derniers pourraient utiliser un matériel de détection thermique pour repérer l'animal. Pour l'instant, les fusils à lunettes thermiques restent de l'usage exclusif des louvetiers, mais jusqu'à quand ? Dernier volet, les éleveurs se verront dotés d'aides nouvelles pour protéger leurs bêtes avec des clôtures électriques et des matériels d'effarouchement. De là à dire que les moutons seraient mieux protégés que les loups, il ne faut pas exagérer. Mais n'oublions pas que les loups régulent le nombre de cerfs et autres chevreuils, destructeurs de cultures et de jeunes arbres. Je vous l'avais dit, dans la vie, tout le monde a ses raisons.
Merci Eric Fotorino. À la une du 1 Hebdo cette semaine.
Alors, que peut faire l'humanitaire entre l'Ukraine, Gaza, mais aussi les épidémies, les catastrophes naturelles? C'est un sujet brûlant.
Grave question à la une du 1 Hebdo en kiosque ce mercredi. Merci Eric de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est l'acteur et chanteur Benjamin Sixou que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Il est l'un des principaux interprètes du spectacle musical Les Souliers Rouges, spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulkerque que vous pouvez voir actuellement en tournée. Et c'est une chanson du compositeur américain Moondog que Benjamin Sixou a souhaité qu'on écoute. Moondog, artiste singulier, mort il y a 25 ans,
qu'on surnommait le Viking de la 6e avenue.
Je l'ai découvert avec ce morceau qui s'appelle Bird's Lament, qui est un thème instrumental qui a été repris par un DJ Scruff. Donc moi je connaissais cette version des clips sur M6 le matin. Et puis un jour, je me rends compte qu'il y a un morceau derrière qui date 30 ans avant. Et c'est ce fameux Moondog. Et après, je commence à m'intéresser à ce personnage. C'est vraiment un personnage inclassable qui a commencé à New York... dans les rues de New York, c'était le pote de tous les jazzman, de bebop et de la musique expérimentale après, minimaliste, Philip Glass et tout ça. Donc il était entre Charlie Parker et Steve Reich, quoi. Et il faisait des spectacles de rue.
Avec une barbe impressionnante.
Une grande barbe. Et il est aveugle.
Suite à un accident dans son
voilà.
enfance.
Et puis, en parallèle, il a enregistré mais un nombre... incommensurable de musique. Justement, entre ces deux univers, c'est ni du jazz, ni de la musique expérimentale, ou c'est les deux, plutôt, pour des formations toujours assez particulières. Et puis, c'est toujours étonnant.
Cette chanson de Moondog Frédéric a pour titre, et on l'entend, New Amsterdam.
Qui était aussi l'ancien nom de la ville de New York. Et cette chanson-là, Benjamin Sixou l'a beaucoup écoutée, notamment lors de l'enregistrement de son deuxième album, très chouette album, Saxophonia, sorti il y a 2 ans.
On a réalisé à 3 cet album. Et il faut toujours, quand on commence un projet, il faut toujours des références, quoi. Et moi, c'était la fanfare. J'ai toujours été fasciné par les fanfares. Ça faisait 10 ans que je voulais faire un album avec des fanfares. Donc ça faisait partie de ses références, il y en avait 2-3 comme ça.
Vous donniez ce titre-là ?
Oui, pour le son,
pour avec vous.
La chaleur du son. Et c'est 9 saxophones qui vont de toutes les tessitures. Et j'adorais le concept d'une fanfare de saxo. Ça m'excitait encore plus qu'une simple fanfare. Ça donne quelque chose de plus feutré peut-être qu'avec des trombones, des trompettes, où ça peut être un peu plus strident parfois. Voilà.
Est-ce que vous savez pour quelle raison vous aimez particulièrement les fanfares ?
Bah parce que c'est la vie, c'est l'humanité. Toutes les civilisations, j'ai l'impression, ont une fanfare. Aussi différente soit-elle, c'est des humains avec des instruments à vent qui se baladent dans la rue pour les enterrements comme pour les mariages, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose de tragicomique là-dedans. Et puis j'aime bien aussi le côté amateur de la fanfare.
Cette chanson, est-ce que c'est un modèle de chanson pour vous ?
Oui, oh oui, oui. Parce qu'il y a tout ce que j'aime. Ça ressemble pas à une chanson alors que c'en est une. On la retient très facilement alors que c'est très savant. Puis ça l'est pas en même temps. Mais si, il y a quelque chose de très subtil dans la rythmique. Alors que la rythmique, c'est boum, boum, boum. C'est tous les temps. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu magique. Donc forcément, ça fait envie, quoi. On a envie d'être des magiciens.
« New Amsterdam Moondog, c'était donc Frédéric, le choix de Benjamin Sixou.
Benjamin Sixou, que vous pouvez retrouver dans le spectacle musical Les Souliers Rouges, qui se donne ce soir à Nantes, puis en avril à Lyon, Arcachon, Bayonne, Cannes et Marseille.
Merci Frédéric, et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Quel est votre invité aujourd'hui ?
Tim Jackson, économiste, pour parler de la post-croissance.
Dans la Terre au carré, à tout de suite.